En 2009, le film Home, il nous lançait un ultimatum. 10 ans pour changer. Bon, 16 ans plus tard, on en est où? Le bilan est contrasté.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est ce qu'on explore aujourd'hui. On va regarder un peu l'héritage de Home et puis une analyse assez intéressante qui propose une théorie sur l'inaction politique. La théorie du dernier moment.
Exactement. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on a l'impression de patiner un peu.
Voilà. Décrypter ce mélange de progrès, mais aussi d'échecs. Comprendre pourquoi l'action décisive, ben, elle semble si compliquée.
Alors, si on repart de Home, en 2009, le diagnostic était d'une clarté terrible, vraiment. Réchauffement, ressources qui s'épuisent, biodiversité en chute libre, les alertes étaient déjà très précises.
Et aujourd'hui, en 2025, c'est le grand écart, non? D'un côté, on a quand même des choses positives, les renouvelables qui explosent.
Oui, ça c'est indéniable.
La conscience écologique, elle s'est vraiment diffusée. On pense aux jeunes, type Fridays for Future, et puis plein d'initiatives locales qui émergent partout.
C'est vrai. Mais faut voir l'autre côté. Les problèmes pointés par Home, ils se sont souvent aggravés. Le réchauffement, il s'accélère. Les inégalités aussi. Les migrations climatiques, ça commence à peine, mais ça commence.
Et il y a ce facteur nouveau, l'IA, l'intelligence artificielle. Pas prévu en 2009, Selva.
Non, et c'est un peu le double tranchant. Potentiellement utile, mais gourmande en énergie, un vrai gouffre. Donc oui, l'échéance des 10 ans, elle est clairement dépassée.
Ce qui est fou, c'est ça. On a les outils, mais on est plein de contradictions. La transition énergétique, elle demande des métaux rares, dont l'extraction pose d'autres problèmes. L'IA, qui consomme à mort, est censée nous aider.
C'est toute la complexité du système, oui. Et ça se voit aussi dans les mentalités. Il y a une vraie demande pour le bio, le local. Mais en face, t'as des résistances fortes, parfois du populisme, du climato-scepticisme.
Et la question sociale, cruciale. Les gilets jaunes en France, ça a été un rappel brutal.
Ah oui, la transition, soit elle est juste, soit elle ne se fait pas. C'est une leçon fondamentale.
On a vu aussi avec le Covid que le changement n'est pas linéaire, on peut changer hyper vite.
Oui, capacité d'adaptation incroyable.
Mais les vieilles habitudes reviennent aussi très vite. Et puis, l'écologie est devenue un enjeu géopolitique majeur. Chine, Europe, États-Unis, tout le monde s'observe.
Absolument. Tout ça fait que l'urgence, elle est encore plus forte qu'en 2009, avec des dynamiques nouvelles, parfois contradictoires, comme l'IA. Et c'est là qu'intervient cette théorie du dernier moment.
Alors, expliquez-nous ça. L'idée, c'est quoi que les politiques savent, mais ils attendent volontairement.
L'hypothèse centrale, oui, c'est un peu ça. Les décideurs politiques seraient conscients qu'il faut des mesures fortes, vraiment fortes. Taxes carbone élevées, restrictions, changement de mode de vie.
Des choses très impopulaires, en somme.
Exactement.
Et donc, ils repousseraient ces décisions difficiles.
Ils attendraient une crise majeure, une catastrophe climatique ou sociale assez visible, assez choquante.
Pour que ça devienne acceptable.
Voilà. Pour pouvoir imposer ces mesures qui, aujourd'hui, sont hors de la fenêtre d'Overton, ce champ des idées acceptables politiquement. C'est une sorte de capitalisme du désastre, l'idée que la crise permet de faire passer l'impensable.
Mais c'est terriblement cynique comme stratégie, si ça existe vraiment. Et risqué, non, hein ? C'est pas juste de la paralysie face à la complexité ou au lobby, c'est un calcul délibéré.
C'est là tout le danger, et l'analyse le souligne bien. Premier risque, le supplice de la grenouille ébouillantée. On s'habitue petit à petit aux catastrophes, aux dégradations, et du coup, le choc espéré pour agir radicalement, il n'arrive jamais.
On s'anesthésie en quelque sorte.
C'est ça. Deuxième danger, les points de bascule climatiques. La fonte du permafrost, par exemple, qui libère du méthane. Ça, c'est de la physique. C'est irréversible et ça n'attend pas le calendrier électoral ou l'opinion publique.
Le temps de la planète n'est pas celui de la politique.
Voilà. Et troisièmement, le verrouillage technologique. Chaque nouvelle infrastructure fossile qu'on construit aujourd'hui, elle nous engage pour des décennies. Ça rend le changement futur encore plus dur, plus coûteux.
On voit des exemples. En France, le recul sur la taxe carbone après les gilets jaunes. Ou même, selon une des sources, un détricotage récent de normes environnementales. En Allemagne, la sortie du charbon repoussée.
C'est cette rationalité tragique, comme vous dites. On optimise pour le court terme, pour les prochaines élections, face à un problème qui se joue sur des décennies, voire des siècles.
Et puis, il y a la dimension internationale. La fameuse tragédie des biens communs.
Oui, chaque pays attend l'autre. Personne ne veut être le premier à prendre des mesures contraignantes, de peur de perdre en compétitivité. Résultat, tout le monde y perd, collectivement, parce que le climat se dégrade pour tous. C'est un poker menteur dangereux.
Bon, si on résume, 16 ans après Home, on est face à un tableau hyper paradoxal. On a une conscience écolo plus forte, des technologies qui avancent.
Oui, des capacités réelles.
Et en même temps, les crises s'accélèrent et l'action politique semble patiner. Avec cette hypothèse déranzante d'un calcul politique, d'une attente du dernier moment.
L'urgence de 2009, elle s'est intensifiée, clairement. Mais la réponse collective, elle reste bloquée par ces contradictions et peut-être par cette vision à court terme.
Ce qui nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour finir.
Oui.
Si cette stratégie politique d'attendre le dernier moment existe, même en partie, mais que la science nous dit que les points de non-retour, eux, ils peuvent être franchis bien avant ce moment jugé politiquement acceptable, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à la roulette russe collectivement ?
En pariant sur une marge de manœuvre qui en fait disparaît. C'est exactement ça. Quelles conséquences si le temps politique et le temps biophysique, le temps de la Terre, sont définitivement désynchronisés ? C'est la question qui reste ouverte.